Bonjour et bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui au micro de Nanit Talani. On vous en dit plus dans les prochaines minutes. Voici les titres. Ce matin, coup de projecteur sur le seul débat vice-présidentiel de la présidentielle américaine. Nous décrypterons avec nos analyses ce face-à-face entre le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz.
Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que bien que le gouverneur Walz ait accusé Donald Trump d'être un agent du chaos.
Procédure inédite de destitution du vice-président au Kenya. Les dockers américains en grève pour des revendications salariales et des protestations contre l'automatisation à suivre dans nos dossiers du jour. Également au Tchad, la rentrée des classes compromise par la crise des inondations. Nouveau staff technique pour les Lions indomptables au Cameroun, ce sera dans notre page sportive juste après la Minute Éco, mais d'abord le journal. J.D. Vance, sénateur républicain de l'Ohio, et Tim Walz, le gouverneur démocrate du Minnesota, se sont confrontés lors d'un débat télévisé organisé par la chaîne CBS ce mardi 1er octobre. Ce débat a été l'occasion pour chaque candidat de renforcer le message de son colistier auprès des électeurs quelques semaines avant l'élection du 5 novembre. On retrouve Alexandrine Holognon à New York.
On peut avoir les convictions, mais on se dit toujours qu'on peut se tromper. Mais qu'on a regardé ce débat avec un esprit ouvert.
Dès l'ouverture de leur premier et unique débat à New York, Tim Walz et J.D. Vance se sont affrontés sur la crise au Moyen-Orient. C'est d'abord le colistier de Kamala Harris qui a pris la parole en mettant en doute l'aptitude du républicain Donald Trump à exercer ses fonctions, estimant que l'ancien président est trop instable pour qu'on lui fasse confiance en période de crise au Moyen-Orient.
Ce que nous avons vu de la part de la vice-présidente Harris, c'est un leadership stable. Nous avons vu du calme, une capacité de s'appuyer sur les coalitions pour les rassembler. Elle comprend que nos alliés sont importants. Lorsque nos alliés verront Donald Trump se tourner vers Vladimir Poutine, se tourner vers la Corée du Nord, lorsque nous commencerons à voir ce type d'inconstance dans le maintien des coalitions, nous resterons engagés. Et comme la vice-présidente l'a dit aujourd'hui, nous protégerons nos forces et celles de nos alliés et il y aura des conséquences.
Son adversaire républicain J.D. Vance a répondu en affirmant que Trump avait rendu le monde plus sûr au cours de son mandat.
Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que bien que le gouverneur Walz ait accusé Donald Trump d'être un agent du chaos, Donald Trump a en fait apporté la stabilité dans le monde et il l'a fait en établissant une dissuasion efficace. Les gens avaient peur de sortir du rang. L'Iran, qui a lancé cette attaque, a reçu plus de 100 milliards de dollars d'actifs dégelés grâce à l'administration de Kamala Harris. À quoi sert cet argent? Il l'utilise pour acheter des armes qu'il lance maintenant contre nos alliés. Et Dieu nous en préserve, contre les États-Unis également. Donald Trump a compris que pour que les gens aient peur des États-Unis, il fallait que la paix passe par la force. Ils doivent savoir que s'ils sortent du rang, le leadership mondial des États-Unis rétablira la stabilité et la paix dans le monde. Vous avez posé la question d'une attaque préventive. Margaret, je veux y répondre. Écoutez, c'est à Israël de décider ce qu'il pense devoir faire pour assurer la sécurité de son pays et nous devons soutenir nos alliés où qu'ils soient lorsqu'ils combattent les méchants. Je pense que c'est la bonne approche à adopter en ce qui concerne la question d'Israël.
À la question de savoir s'il soutiendrait une attaque préventive d'Israël contre l'Iran, Vance a laissé entendre qu'il s'en remettrait au jugement d'Israël, tandis que Walz n'a pas répondu directement à la question. Un autre grand thème qui était au menu de ce débat, c'est bien sûr l'immigration. Tim Walz a accusé son rival républicain, le sénateur J.D. Vance, de diaboliser les migrants.
Nous avons réglé ce problème avec un projet de loi qui est essentiel. Le problème est le suivant. C'est ce qui arrive lorsque l'on ne veut pas résoudre le problème. Vous le diabolisez et nous l'avons vu, le sénateur Vance, et cela me surprend. Il a dit, je vais créer des histoires pour attirer l'attention sur ce problème. Il a ainsi diabolisé un grand nombre de personnes qui étaient ici légalement dans la communauté de Springfield. Le gouverneur républicain a dit que ce n'était pas vrai. Ne le faites pas. Il y a des conséquences à cela. Nous pourrions nous unir.
J.D. Vance s'est défendu en évoquant la situation des populations locales dans l'État d'Ohio estimant qu'elles sont submergées par les migrants.
À Springfield, dans l'Ohio et dans toutes les communautés du pays, les écoles sont débordées, les hôpitaux sont débordés, les logements sont totalement inabordables parce que nous avons fait entrer des millions d'immigrés clandestins qui viennent concurrencer les Américains pour les rares logements disponibles. Les personnes pour lesquelles je m'inquiète le plus à Springfield, dans l'Ohio, sont les citoyens américains dont la vie a été détruite par la politique d'ouverture des frontières de Kamala Harris. C'est une honte, Tim. Je pense que je suis d'accord avec vous. Je pense que vous voulez résoudre le problème, mais je ne pense pas que Kamala Harris le veuille.
L'ouragan Helene, qui a causé au moins 155 morts aux États-Unis et la gestion de la catastrophe par le gouvernement Biden, a aussi été passée en revue lors de ce débat. Les deux candidats ont aussi été interrogés sur des questions comme l'avortement, l'inflation et la politique des armes à feu aux États-Unis. De manière générale, les deux débatteurs ont été assez courtois l'un envers l'autre. Ils ont concentré la plupart de leurs lignes d'attaque en grande partie cordiales sur la tête de liste, comme c'est traditionnellement le cas lors des débats entre vice-présidents. Ils ont tous deux souligné les crises du moment comme autant de raisons pour choisir la vice-présidente Kamala Harris ou l'ancien président Donald Trump. Alexandrine Rollognon, VOA Afrique, New York.
Ce débat vice-présidentiel entre Tim Walz et Dedi Vance a offert un aperçu des visions contrastées des deux camps à quelques semaines de l'élection présidentielle. Écoutons Fleury Kamga, un électeur américain d'origine camerounaise, indépendant, mais convaincu de voter pour Donald Trump.
On peut avoir les convictions, mais on se dit toujours qu'on peut se tromper. Mais quand on a regardé ce débat avec un esprit ouvert, il est clair que J.D. Vance a montré qu'il avait une connaissance parfaite, non seulement de la législation, mais aussi de l'histoire de ce pays, et qu'il a une volonté d'aider le président Trump à changer la donne dans ce pays, parce que ce pays est véritablement sur la mauvaise direction. Donc ce débat ce soir m'a permis, n'est-ce pas, de solidifier mon soutien pour le président Trump.
Personnellement, qu'est-ce que la présidence Trump pourrait vous apporter et qu'est-ce que la présidence éventuelle de Harris pourrait ne pas vous apporter?
Voilà, quand on a vécu en Amérique pendant la période de 2017 à 2020 et sous la présidence du président Trump, déjà sur un plan personnel, on peut se rendre compte que l'économie était spectaculaire. Déjà pour moi qui suis un jeune noir, on a vu ce qu'il a fait pour les noirs, prison reform. Il y a au moins 200 jeunes noirs qui ont été incarcérés pour des problèmes de joints, qui sont sortis de prison et on leur a donné l'opportunité de s'insérer dans la société. Pour les noirs, pour les HBCU, les universités noires, Trump a donné un fonds permanent pendant 10 ans pour les universités noires. Justement pour cela, on peut applaudir le travail de ce président. Et sur un plan personnel, je soutiens déjà, je suis quelqu'un qui est pratiquement totalement contre l'avortement, ce qu'il soutient, et je suis un conservateur. La direction que le monde est en train de prendre en ce moment, généralement sur le plan social, est tellement dangereuse. Et ça, je le soutiens. Et pour mes enfants, les enfants qui vont dans les écoles, je suis pour school choice. Que chaque parent soit capable de choisir l'école où va son enfant. Si tu es capable d'amener ton enfant à 10 km chaque matin et le récupérer dans l'école que tu veux, ce serait une bonne chose.
Mohamed Mbodj, analyste politique et professeur d'histoire à Montarville University à New York, estime que Tim Walz a su mieux convaincre que son adversaire républicain.
Les deux ont été brillants. D'une part, je crois, Vance a essayé de baisser le ton sur la rhétorique qu'on lui connaît, sur beaucoup de choses très osées et pas posées du tout, et même fausses. On peut dire qu'il a dit de façon très péremptoire. Il a essayé de rétro-pédaler et il a été courtois d'une certaine façon. Et de l'autre côté, donc, Walz a essayé de garder la tête froide et de montrer qu'en réalité, Vance n'est que donc un substitut pour Trump, quelqu'un qui n'est pas démocratique, qui n'accepte pas la démocratie. Et quelqu'un qui ment sur le Obamacare, qui ment sur la politique d'abortion, qui ment sur le phénomène d'inflation. Donc là, il a marqué des points en soulignant à chaque fois que c'était des paroles en l'air qui ne voulaient rien dire. Même lorsque, dans les parties où Trump se sent le plus fort, comme l'immigration, il a bien montré que les lois dont on accuse Kamala Harris, d'avoir aidé les immigrants illégaux, que ces lois datent des années 90 déjà, donc qu'en réalité, c'est simplement des accusations fausses. Donc, à mon avis, je pense que Walz, on n'attendait pas qu'il soit le grand débatteur, qu'il soit, on dit ici, un chien d'attaque. Il a bien résisté, il a porté des coups. On s'attendait à Vance de se comporter en bulldog, mais il a su se modérer. Mais d'une manière générale, je crois que sur les points essentiels, je donnerais plutôt l'avantage à Walz.
Est-ce que vous pensez que ce débat va, déterminer l'issue du scrutin du 5 novembre ou si ça va, faire basculer en faveur d'un candidat ou d'un autre?
Je ne le pense pas. Je crois qu'il y a des positions qui ont été renforcées en quelque sorte. Et il y a eu aussi ce qu'on peut appeler une sorte de manipulation des mots pour être un peu plus précis sur le message. Par exemple, lorsque Vance a insisté pour dire que le Parti démocrate est un parti pro-abortion, tout de suite, Vance l'a arrêté pour dire non, nous sommes pro-féministes, nous sommes pour la liberté. Martelé, il l'a répété, je crois, 3 fois. Dans l'électorat qui est indécis, je ne suis pas sûr que ce débat va amener beaucoup d'adhésion ou de changement de bord. Mais pour ceux qui hésitaient, mais qui pensaient aller dans un sens ou dans un autre, je crois que donc ce débat va effectivement leur donner des munitions à aller tout à fait sans retenue pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais quant à déplacer, des voix d'un côté vers l'autre, je ne le pense pas du tout. Et parmi les indécis, en particulier surtout chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est plutôt Walz qui a attaqué de fond avec le problème sur la dette des étudiants, avec le problème sur les jeunes couples qui cherchent du logement, hein, sur les subventions pour les enfants, pour les congés parentaux, etc. Je crois que là, il a certainement indiqué un chemin beaucoup plus clair et beaucoup plus visible pour peut-être une petite classe moyenne, jeune, qui va voter peut-être pour la première fois et qui peut-être va se sentir un peu plus, encore charmé par ses propositions.
C'était des propos recueillis par Eric Manirakiza.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Kenya, l'Assemblée nationale a initié mardi une procédure de destitution contre le vice-président Rigathi Gachagua, accusé d'enrichissement personnel et d'insubordination. C'est une procédure inédite lancée après des mois de conflit entre le chef de l'État kényan et son adjoint. Le point avec Jean-Roger Bion. Je disais qu'au Kenya, l'Assemblée nationale a initié mardi une procédure de destitution contre le vice-président Rigathi Gachagua. Le point avec Jean-Roger Bion.
Cette motion contre le vice-président liste 11 motifs de destitution, dont ceux d'atteinte à l'unité nationale, ainsi que de nombreuses suspicions de crimes économiques, tels des détournements de fonds publics. La motion déposée par un député, membre de la coalition présidentielle, remplissait tous les critères, notamment celui du seuil de signature, 291 pour 117 requises. Pour être adoptée lors d'un vote prévu le 8 octobre, la destitution devra réunir les 2/3 des députés, soit 233 voix. La motion sera ensuite débattue et votée au Sénat, où 45 voix seront nécessaires. En cas d'adoption, M. Gachagua, 59 ans, serait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure instaurée dans la Constitution de 2010. Rigathi Gachagua dénonce une manœuvre politique menée avec l'accord du président William Ruto, qui reste silencieux sur le sujet.
Au Bénin, deux proches du président Patrice Talon, Olivier Boko et Oswald Omeki, ont été placés sous mandat de dépôt hier soir en attendant leur procès pour soupçon de coup d'État. Ils avaient été arrêtés la semaine dernière pour avoir, selon le procureur, tenté de corrompre le commandant de la garde républicaine. C'était tout pour ce tour d'horizon de l'actualité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, concentrons-nous sur les dernières nouvelles économiques et financières avec Jean-Roger Bion.
Les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo ont consolidé leur contrôle sur la région minière de coltan de Rubaya, imposant une taxe de production estimée à environ 300 000 dollars de revenus mensuels. Bintou Keïta, chef de la mission de l'ONU au Congo, a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que le commerce des minéraux de la région de Rubaya représentait plus de 15% de l'offre mondiale de tantale. Des dizaines de milliers de Burkinabés ont trouvé refuge dans le nord de la Côte d'Ivoire, fuyant les zones de combat entre l'armée et les djihadistes. Pour subsister, les demandeurs d'asile comptent sur l'entraide de leurs familles d'accueil et quelques dons du gouvernement ivoirien ou des institutions internationales comme le Haut Commissariat aux réfugiés. Les dockers américains de la côte Est sont en grève, une première depuis 1977. La grève concerne 25 000 personnes travaillant dans les terminaux de 14 grands ports, Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Savannah, Miami, Tampa ou encore Houston. Oxford Economics estime que chaque semaine de grève amputerait le PIB américain de 4,5 à 7,5 milliards de dollars.
Intéressons-nous maintenant aux nouvelles sportives. Nous accueillons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports s'accordent finalement sur les membres du staff technique des Lions des Notables.
Oui, dans un communiqué co-signé par Samuel Tofis, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Combi, le sélectionneur Marc Brice reste en poste, mais sera secondé par des adjoints auparavant nommés par Eto'o, Martin Tungu Pilé et David Pagou, l'ancien international camerounais Carlos Kamini est l'entraîneur des gardiens, Atouba Timothée est le coordinateur des sélections nationales. D'après le communiqué conjoint, cette entente fédération-ministère doit permettre de ramener la sérénité au sein des Lions Indomptables. Le Cameroun fait face au Kenya les 11 et 14 octobre dans une double confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Kenyans et Camerounais partagent la tête de leur poule avec 4 points.
Suite ce mercredi des matchs de la 2e journée de la Ligue des Champions.
Entre autres matchs au programme, le Real Madrid se rend à Lille avec Kylian Mbappé dans le groupe remis plus tôt que prévu d'une blessure à une cuisse. Le Shakhtar Donetsk affronte l'Atalanta Bergame du Nigérian Lookman Ademola. Lille fait face au Real Madrid. Aston Villa reçoit le Bayern Munich. À suivre aussi Benfica Atlético Madrid. Liverpool-Bologne. Hier, Arsenal du Ghanéen Thomas Partey s'est imposé 2-0 dans le choc face au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a écrasé Berne 5-0 et se relance. Le Borussia Dortmund a su classer le Celtic Glasgow 7-1 avec une réalisation du Guinéen Serou Guirassy. Victoire 4-0 de l'Inter Milan face à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'autre Nigérian, Victor Boniface, a permis au Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba d'enlever une deuxième victoire 1-0 face à l'AC Milan.
Ici en NBA, Joel Embiid dit vouloir tout faire pour arriver entier aux phases finales.
Cette saison, il n'y a pas d'agenda, il n'est pas question de All-Star, il n'est pas question de All-NBA, il est question de tout faire pour arriver et être prêt pour les phases finales. C'est ce qu'a déclaré le pivot camerounais leader des Sixers de Philadelphie. Je crois tout simplement qu'à chaque saison, j'ai été blessé pour les playoffs, a ajouté Joel Embiid qui compte 7 participations au All-Star Game. Les Sixers ont été éliminés au premier tour des playoffs la saison dernière par les Knicks de New York, alors qu'Embiid était diminué par une blessure au genou. Pour moins peser sur son genou, le joueur de 2m13 a confié avoir perdu 11 à 13 kilos.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Nanit Talani. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le syndicat des dockers de grands ports de la côte est des États-Unis sont en grève. Les dockers ont commencé à débrayer tôt, mardi, après l'échec d'un nouveau round de négociations de dernière minute entre leur syndicat et l'Alliance maritime. Ils revendiquent une revalorisation des salaires et protestent contre l'automatisation des tâches. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Tous les ports entre le Maine, dans le nord-est des États-Unis, et le Texas, dans le sud du pays, sont à l'arrêt depuis ce matin, soit la première grève d'ampleur depuis 50 ans. Boyce Butler, président de l'Association internationale des manutentionnaires, section de Philadelphie.
What they need to do is pay these men and women.
Ce qu'ils doivent faire, c'est payer à ces hommes et à ces femmes un salaire équitable. Ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards de dollars, d'accord? Des milliards et des milliards et des milliards de dollars pendant le Covid. Ils ont anarché toute l'industrie. Ils ont anarché le gouvernement et tout le monde pendant le Covid. Et maintenant, nous voulons qu'ils remboursent. Ils vont rembourser.
L'autre bataille du syndicat des dockers, c'est l'automatisation des tâches. Les travailleurs ne veulent pas se laisser compter. Pour eux, ce nouveau virage est la voie ouverte à la perte des emplois. À nouveau, Boyce Butler.
Devinez quoi ? Nous allons nous battre aussi longtemps que possible. Et nous allons résister aussi longtemps que possible, ok ? Mes hommes et mes femmes travaillent mieux que n'importe quelle machine. Regardez les chiffres. Les chiffres disent la vérité. Les chiffres disent la vérité.
Le président américain Joe Biden a appelé mardi à des négociations rapides et équitables pour résoudre cette grève des dockers à l'impact économique potentiellement très important, a indiqué la Maison-Blanche.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Tchad, les élèves ont repris le chemin de l'école le 1er octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Une rentrée sous fond de crise d'inondation qui se généralise dans tout le pays. Une situation qui risque de jouer sur ce calendrier puisque beaucoup d'établissements sont inondés et donc difficile d'y avoir accès. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Après la rentrée des élèves des classes d'examen C, des classes intermédiaires regagnent le chemin de l'école ce 1er octobre. Certains élèves des établissements scolaires situés dans les banlieues de la capitale ont du mal à braver les intempéries pour être en classe, comme en témoignent quelques-uns.
Pour venir, il faut absolument mettre les pieds dans la boue, piétiner jusqu'à venir.
Même pour entrer dans la cour de l'école, il y a l'eau devant la porte.
Nous avons l'habitude de danser des briques et de marcher dessus. Il ne faudrait pas être mouillé et parfois nous portons des bottes, même les salles sont inondées, c'est pas facile même d'accéder, faire des cours.
Une situation qui amenait les responsables du complexe scolaire évangélique La Trompette à revoir le calendrier, quand bien même qu'il y a engouement des élèves et de corps enseignants. Freeman Diasrabe Mberkoubou est le fondateur.
L'eau au niveau de la carrière déborde, c'est déversé ici. Les enfants, ou bien tout le monde, sortent travers la pirogue pour aller se chercher. Donc, il y a un moment, nous avons décidé que le lundi 6 octobre, que les enfants viennent, nous allons travailler le matin et le soir pour combler les jours que nous avons ratés.
Les responsables de certains établissements estiment pour leur part que l'inondation est un phénomène naturel qui ne doit pas imposer sa loi.
Nous avions décidé de reprendre les activités aujourd'hui, le 1er octobre. Ce qui nous inquiète un peu, c'est l'état de la route. Nous, on a décidé que les enfants peuvent s'armer de courage, marcher dans l'eau et venir, peut-être pour les une semaine, deux semaines après, ça va s'améliorer.
Le ministre en charge de l'éducation nationale, Mamadou Boukar Ghana, est conscient de la situation et informe qu'un comité a été créé au sein de son département pour aider les chefs d'établissement à pallier cette difficulté.
La capitale N'Djamena étant la référence nationale, c'est bon de donner le bon message ici à N'Djamena pour que les autres autorités déconcentrées copient sur N'Djamena et que la dynamique soit nationale. Soyons optimistes, engageons-nous tous dans les actions de telle sorte que le calendrier
calendrier là pour les établissements qui peuvent accueillir soit respecté.
Maître Balamsouma Tchangouroua, coordonnateur de l'Observatoire national de conscience citoyenne, estime que la situation des inondations dans la capitale reste toujours inquiétante et donc il sera difficile de rendre effective cette rentrée scolaire. Il propose ceci.
Nous pensons que les autorités en charge de l'éducation devraient d'abord chercher à trouver des solutions à ces établissements qui sont inondés, puisque les enfants ne peuvent pas aller fréquenter dans l'eau. Et donc déjà, soit c'est repousser légèrement la date de la rentrée scolaire, soit appeler à des actions citoyennes, impliquer la mairie à venir également curer ces eaux-là avec la pompe, pour rendre la cour accessible aux élèves pour qu'ils reprennent.
Un autre phénomène dénoncé par certains responsables des établissements publics qui risque de retarder la rentrée scolaire, c'est le comportement de certains sinistrés logés dans ces bâtiments publics qui ont rendu ces locaux insalubres et cassé certaines tables bancs dont la réparation prendra quelques jours. André Godoumadingar, Ndjamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena, au Tchad sur 93.1 FM. Au Rwanda, le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à l'épidémie de Marburg qui a déjà fait 8 morts dans le pays. Cela intervient alors que le Rwanda avait déjà lancé une alerte contre le Mpox. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Les mesures d'hygiène personnelle sont renforcées dans tous les lieux publics au Rwanda en réponse aux mesures annoncées par le ministère de la Santé visant à contenir la propagation du virus de Marburg. Dans la foulée, l'ambassade des États-Unis à Kigali a ordonné à son personnel de travailler à domicile et les locaux de l'ambassade sont fermés au public jusqu'au 4 octobre. Dans une conférence de presse, le ministre de la Santé, Sadan Sanzimana, a indiqué que 8 personnes sont mortes du virus et plus de 300 sont placées en isolement.
Au moment où nous parlons, beaucoup a été fait en termes de recherche des contacts, de dépistage, d'isolement et de traitement. Nous faisons aussi la communication pour nous assurer que la population est informée. Nous avons mis en œuvre tous nos mécanismes de réponse avec nos partenaires et des institutions gouvernementales pour arrêter cette propagation le plus rapidement possible et sauver la vie des patients déjà infectés.
Les autorités sanitaires du Rwanda ne parviennent pas encore à identifier l'origine du virus de Marburg signalé au Rwanda depuis une semaine. Le ministère de la Santé espère pouvoir limiter la propagation du virus.
Ce virus a un taux de mortalité élevé qui peut des fois se situer entre 28 et 90%. C'est un grand pourcentage, mais notre but est de réduire le taux de mortalité le plus possible. Les chiffres que j'ai mentionnés concernent essentiellement le personnel de santé.
L'Organisation mondiale de la santé assure son appui et indique qu'il est possible de contenir le virus qui s'est déjà manifesté en Tanzanie en 2023.
Une équipe de 7 experts arrive bientôt et sera intégrée dans une structure déjà mise en place. En plus de ça, nous apportons notre soutien dans d'autres domaines comme le matériel de dépistage, étant donné que c'est une étape importante dans la maîtrise de cette épidémie. Nous allons fournir les équipements de prévention et de traitement. Nous avons fait des arrangements, une partie de ce matériel arrive cette nuit, une autre demain. Et la semaine prochaine, nous recevons plus d'équipements.
D'autres mesures annoncées par les autorités sanitaires au Rwanda sont l'interdiction des visites aux patients hospitalisés pendant les 14 prochains jours, alors que tous les établissements de santé doivent mettre en œuvre un protocole pour prendre en charge les patients présentant des symptômes du virus de Marburg, tout en respectant rigoureusement les mesures de prévention et de contrôle des infections. Jean Thomas Seliman Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24. C'est ici que se termine cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Un grand merci à toute l'équipe de production et à nos correspondants sur le terrain pour leurs précieuses contributions. Au micro, Nanit Talani, à la technique, Cheikh Thierro, à la réalisation, Kelvin Fowler. Pour ne rien manquer de l'actualité, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.